Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne. Pour cet invité du jeudi, cet invité du jeudi aujourd'hui va être un hommage à quelqu'un qui vient de nous quitter, le Sphinx, Robbie. Et oui, c'est comme ça qu'on l'appelait du côté de Saint-Étienne. Robert Arbin a tiré sa révérence suite à un problème cardiaque. Il avait 81 ans. Alors bien sûr, notre génération se rappelle, hein. Robert Arbin, c'était d'abord un très bon joueur, hein, qui a été sélectionné en équipe de France, qui a gagné beaucoup de titres avec Saint-Étienne en tant que joueur, et puis après en tant qu'entraîneur, puisqu'à l'époque, il a été un des plus jeunes entraîneurs de France, hein, puisqu'il a arrêté le football, et Roger Rocher lui avait demandé de prendre l'entraînement de cette équipe de Saint-Étienne. Alors, c'était un petit peu compliqué, parce que en tant que joueur, il allait entraîner des gars avec qui il avait joué. Mais on verra qu'il a apporté vraiment quelque chose au football français et particulièrement à cette équipe de Saint-Étienne avec la fameuse épopée de 1976. Et dans quelques instants, pour nous parler de Robert Arbin, on retrouvera Jacky Roche, qui était un de ses amis les plus proches et qu'il a bien connu, et qui va nous parler de Robbie. Mais on est obligé de commencer cette émission avec cela.
On est vestiaire avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer.
Voilà, eh bien, hommage à Robert Arbin aujourd'hui, puis qui de mieux pour lui rendre un hommage, eh bien, c'est quelqu'un qui est tout près de chez nous, hein, qui habite à Julliange, c'est Jacky Roche. Jacky, bonjour.
Bonjour, bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous.
Alors Jacky, toi tu étais bien sûr très très près de Robert Arbin, bon, mais avant, pour rappeler un petit peu, toi aussi, c'est que, bon, ben, il y a un petit moment que tu es à Craponne, là, à Montguéry, je ne sais plus depuis combien de temps, mais ça fait un petit moment quand même.
Ah, ça fait un petit moment que j'ai même ma résidence secondaire ici, hein, bien sûr. Hein.
Ouais, et maintenant que c'est ta principale, quoi.
C'est presque ma principale.
C'est presque.
En ce moment, j'ai pas le choix.
Oui, en ce moment, t'as pas le choix. Ou alors, Jacky qui a joué au COC, hein, aussi, on se rappelle, hein, dans les années, je me rappelle plus, mais.
C'est vieux.
Ça date un peu, hein, je crois que ça date en 75 par là, non?
Ouais, ça se met avant, je pense. 70,
même avant?
10 par là,
ouais. Ah ouais, d'accord. 70. Ouais, donc ça date un petit peu, hein. Voilà. Bon, alors, toi, tu as beaucoup été dans le football, hein, hormis ta profession initiale, mais tu as beaucoup été dans le football puisque tu as tes diplômes d'entraîneur, tu es toujours coach physique.
Oui, ben maintenant je me suis un petit peu retiré du terrain. Hein,
oui.
Parce que ça devient plus difficile. Là, c'est bien plus difficile. Hein. Mais bon, je suis toujours dans le football parce que je suis siège au comité directeur de l'UNICAPES, si tu veux, à Paris, pour le syndicat des entraîneurs, avec Raymond Domenech, Jacques Santini, Alain Merchadier, Pierre Rappellini, tu vois, tous des anciens de Saint-Étienne, beaucoup de Saint-Étienne.
Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à être aussi intime avec Robert Arbin?
Ah ben, Roby, je le connais depuis les années 60, depuis les années 60, quand j'étais un joueur amateur à Saint-Etienne, si tu veux, à Saint-Etienne. Et puis après, je l'ai connu quand je me suis beaucoup plus connu, quand je me suis occupé de la préformation des jeunes à Saint-Etienne, ce qu'on appelle les U17 et les U19 maintenant. Et à partir de là, j'étais en contact, l'équipe Fagnon, j'étais en contact avec lui assez souvent, et puis petit à petit, après, je suis passé de la préformation à la formation et ensuite il m'a demandé de m'occuper un petit peu de toutes les évaluations des joueurs professionnels du club. Voilà, donc après, une fois qu'il avait quitté le terrain lui aussi, on est resté très proche.
Oui, puisqu'on en parlait de temps en temps, hein, tu le rencontrais régulièrement.
Ah ben bien sûr, il ne passait pas, disons. Ouais, tous les 8 jours, il y avait des échanges téléphoniques, et puis je descendais, de temps en temps, je montais au Cumine, là, où le voir, à son domicile. Et on échangeait, on discutait, on faisait le monde, un peu sur le football.
Oui, alors c'est vrai que Roby, hein, qu'on a surnommé le Sphinx, parce que c'est vrai que quand il était sur le banc de touche, il n'y avait jamais aucune émotion sur sa figure, hein, qui est bu ou pas bu, d'un côté ou de l'autre, il restait toujours stoïque. Hein, alors, surtout, ce que je disais, c'est quand même... C'est l'entraîneur qui a fait, peut-être après Michel, il y a eu Michel Hidalgo d'abord, on peut dire, et puis après il y a eu Robert Arbin qui, parce que c'était pas facile quand même, il avait arrêté sa carrière de joueur, et dans la foulée, Roger Rocher lui dit, tu vas prendre l'équipe 1 de Saint-Étienne, donc c'était compliqué parce qu'il avait joué avec les gars qu'il allait entraîner, mais finalement il s'en est bien sorti.
Cela dit, toi, je te corrige un peu parce que Michel Hidalgo, il a été un sélectionneur d'équipe de France. Après 76, donc après le, disons, la grande épopée verte.
Oui, oui, c'est vrai, j'ai inversé là, t'as raison.
C'est pas grave. Et si tu veux, Roby, ce qu'il a amené de nouveau dans le football, bien dans le football français, c'est qu'il a pris conscience de la différence qu'il y avait avec les nations étrangères au niveau de l'athlétique, si tu veux, l'athlétique. Et il a introduit des séquences d'entraînement, des séances complètes même d'entraînement, basées sans ballon, uniquement sur la préparation athlétique. Cela dit, les joueurs, au début, n'appréciaient pas, et puis petit à petit, ils se sont rendus compte que des résultats dedans, ils ont accepté tout à fait ça. Ils ont adhéré à son système. Et ça a un petit peu déclenché le renouveau du football français. C'est un petit peu ça.
Oui, c'est ce que
après,
je disais.
On a pu rivaliser avec toutes les équipes, même les équipes athlétiques, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Angleterre, des choses comme ça. Hein.
Oui, c'était quelqu'un qui a révolutionné les méthodes de football. Je me rappelle aussi qu'il avait mis un entraînement au point, puisque moi je m'en étais servi un peu dans ma courte carrière d'entraîneur. C'était le jeu de tête. Hein.
Le foot de tête.
On savait que les Français étaient très faibles au jeu de tête. Et lui, il avait mis ses entraînements comme ça, jeu de tête. On jouait qu'avec la tête.
5 contre 5,
voilà.
Sur synthétique, sur terrain couvert synthétique, sur 20-25 mètres carrés, 25 mètres de distance début, pas de gardien, bien entendu, tout à la tête. Donc, évidemment, il y avait des contacts et quelques blessures.
Oui, quelques nez cassés, bon, mais ça, c'est...
Voilà.
Oui, mais ça avait... Ils avaient beaucoup progressé parce qu'il avait été un très bon joueur de tête quand il jouait au football.
Il avait une détente exceptionnelle et surtout un timing.
Voilà, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut dans le jeu de tête.
Et oui, c'est pas le tout de sauter haut, il faut sauter au bon moment.
Ouais.
C'est ça.
Alors, c'est ça. Bien sûr, Robert Arbin, c'est un personnage, hein, tout comme Roger Rocher, comme Pierre Garonner à Saint-Étienne, hein, c'est des hommes qui ont marqué ce club de Saint-Étienne, puis surtout cette épopée 76, parce que lui, en plus, il a eu des titres en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur, hein, puisqu'il a gagné.
Eh ben, il a, c'est 9 titres.
Oui, les 9 titres, ouais. Oui, il a gagné la
Coupe. 5 en tant que joueur, 5 en tant que joueur, 4 en tant qu'entraîneur, 6 Coupes de France, 3 en joueur, 3 en tant qu'entraîneur, 3 en tant qu'entraîneur. Donc il a un palmarès exceptionnel. Ouais. C'est le palmarès le plus fourni.
Alors, c'est vrai que... C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand je t'ai appelé. Je regardais un peu l'autre fois parce qu'il repassait l'épopée des Verts. Alors moi, ça m'a rappelé plein de souvenirs parce que je les ai bien suivis aussi un peu partout. Et quand on voyait sur le banc de touche d'un côté le père Rocher avec sa pipe et de l'autre côté Robert Herbin avec la cigarette, maintenant, c'est inimaginable. Hein.
Ouais, il y a Garonner qui ne fumait pas à l'époque.
Il y a Garonner, oui. Mais enfin, c'est vrai que c'était assez exceptionnel. On n'imagine pas maintenant l'entraîneur qui sort sa cigarette sur le banc de touche. Hein. Enfin, j'ai pas l'impression.
Ça fait bizarre.
Ouais. Alors, c'est vrai que Robbie, on le rencontrait du temps où le CAS était en Pro B. Là, il venait bien voir les matchs. Il aimait bien le basket aussi. On discutait de temps en temps.
Oui. Le basket, il aimait bien. Le seul sport qu'il aimait pas, c'était le handball.
Ah oui.
Je comprends rien aux règles. C'est brutal. Il n'y a pas de coup franc. Il n'y a rien. Ah, voilà.
Ouais.
C'était un des seuls sports qu'il n'appréciait pas.
Ouais, on savait que c'était un garçon sympathique, mais on peut le dire un peu timide, un peu renfermé. Mais
C'est l'image.
Oui, c'était l'image qu'il voulait donner, peut-être.
Et, non, mais il est comme ça. Mais c'était pas de la timidité ou tout ce que tu veux. Hein, il n'était pas autant non plus. Hein, mais c'était de la pudeur. Là, la pudeur et l'humilité. Qu'il connaissait bien, je peux te dire, c'était ça. Hein, parce que. Autrement, quand tu arrivais à rentrer dans son univers, en quelque sorte, je pense que un être extraordinaire.
Oui.
Un petit extraordinaire aussi.
Oui, non, puis après, on l'a bien vu, nous, parce qu'à force de soir au match, bon, bah, après, on avait un peu sympathisé, quoi.
Voilà.
Alors, je l'embêtais pas tout le temps, hein. Mais de temps en temps, je disais, Roby, vous pourrez bien nous dire quelque chose, hein. Donc, il se pliait avec gentillesse, hein. Il n'y avait pas de problème.
Oui, c'est ça. Dès l'instant où il apprécie les gens, où il arrive à rentrer en contact, où il a confiance, il se libère,
hein. Ouais.
Autrement, il a toujours une réserve. Il est toujours réservé. Le seul banc de touche, il était réservé. Que ce soit une action favorable ou défavorable. Jamais d'excès.
Ouais, puis il avait une autre particularité, puisque c'était un grand amateur d'opéra, hein, et de musique classique.
C'est vrai. Ça, c'est un truc qu'il n'a jamais pu me faire partager avec lui.
Ah, oui.
Il était venu à la chaise Dieu.
Oui, je sais qu'il était venu à la chaise Dieu.
Dans le festival. Mais bon, ça, la musique, c'est. Que ce soit en voiture ou chez lui, toujours de la musique classique, hein. De variété. Hein.
Ouais. Alors,
c'est son personnage. Hein.
Ouais. Alors, c'est ce qu'on disait, c'était un petit peu un solitaire, hein, même après le football. Il était dans sa maison de Létra, hein. Il habitait à Létra, c'est ça, hein.
Les Cumines à Létra, oui.
Ouais, c'est ça.
Sur les hauteurs d'Létra. Dans une maison qui était à côté de celle de Garonnet à l'époque.
Ah ouais, ils étaient tous les deux côte à côte. Et là, quand il s'est retiré, c'est vraiment un peu un ermite, c'est devenu. Hein.
Oui, un petit peu. Ouais, c'est-à-dire que comme les gens ne se connaissaient pas bien, il n'avait pas très peu d'amis. Hein. Enfin, ça se compte sur les doigts de la main, hein, si tu veux. Les gens, ils se trouvaient bien dans cette situation. Hein. Ça ne venait pas, hein, pourvu qu'il ait ses chiens, parce que ses chiens, c'était vraiment ses compagnons fidèles, hein, en quelque sorte, hein, et sa musique, et la télé, le reste, la presse, il allait chercher ses journaux tous les jours, hein, c'est tout. Hein. Il vivait comme ça, hein, c'est une façon de vivre. Hein.
Oui, puis là, dernièrement, enfin, pendant quelques temps, il faisait les commentaires sur les matchs des Verts dans la tribune Le Progrès, quoi, il donnait son avis.
Oui. Alors, des avis toujours à fleur et mouchetier, comme on dit. Hein,
oui.
Sur la route, toujours réservé.
Oui, c'est vrai.
Il voulait pas créer de polémique, un peu. Hein. C'est Roby.
C'était Roby, oui.
Tout n'était pas blanc, tout n'était pas noir.
Voilà. Oui, non, c'est ça. Donc, toi, tu as eu la chance de le côtoyer. Donc,
c'est une chance
énorme.
Énorme. Enfin, si. Ouais. Et puis, je me souviens, quand il m'envoyait voir les matchs, superviser les adversaires du club. Alors, je refais mon rapport et je lui disais, voilà, cette équipe, comment elle joue. Bon, il s'est indiqué les points forts de l'équipe adverse. Et lui, il me disait, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces points forts? Ce qui m'intéresse, c'est les points faibles. Et il me disait, quand tu poses pas de problème à l'adversaire, c'est lui qui t'en pose. Et ça, c'était une vraie philosophie de jeu. C'est-à-dire que ne pas se montrer toujours frileux, actuellement, c'est ça, hein. Se soucier des points forts de l'adversaire, ça veut dire jouer déjà avec un état de faiblesse, c'est-à-dire essayer de contrer. C'est pas ça, son idée, mais c'était pas ça. C'est poser des problèmes et dominer l'adversaire. Avec tes armes, en fonction des points faibles de l'adversaire, mais pas des points forts. Ah, c'est sa grande philosophie.
Oui, puis c'est ce que tu disais, physiquement, il avait amené autre chose à cette équipe stéphanoise.
Ça faisait partie de nos grandes discussions, puisque c'était préparateur physique. Et là, donc alors, lui, sans GPS, sans cellule photo électrique, sans tout ce qu'on peut appeler les tactiques d'auto-joint et compagnie là, qui servent actuellement à la préparation athlétique, lui, il faisait des séances de préparation physique de haut niveau par l'œil, en voyant à l'œil. Ça, c'est vraiment, c'est pas donné à tout le monde, hein, en voyant à l'œil ce que les joueurs, les points faibles des joueurs, et connaissant le football comme ils le connaissaient, c'est-à-dire ce qu'on appelle la modélisation, c'est-à-dire savoir le type d'effort qu'il faut faire, les qualités qu'il faut avoir. Il faisait des séances de préparation physique qui permettaient d'obtenir ça sans savoir le fondement physiologique des choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle le talent, en quelque sorte. C'était inné chez lui. Le football était inné. Voilà.
Oui, parce qu'il était arrivé à Saint-Étienne, c'est un niçois d'origine. Hein. Il était arrivé par le Caviga.
Il était arrivé avec sa valise en carton.
Oui.
Il avait une photo, il m'avait ressorti, là. Il m'a dit, j'ai retrouvé ça dans mes affaires. Une photo, des photos sur le quai de Château-Creux avec sa valise en carton et Garonner qui venait chercher. Voilà, c'était ça. C'était le début de l'aventure.
Ouais, puis ça a été quand même une belle aventure parce que je sais plus, mais il est resté en tant que joueur longtemps, après en tant qu'entraîneur. Finalement, à part un petit passage à Lyon, il a toujours été à Saint-Étienne, quoi.
Ah, non, il a fait Lyon, à partir quand il était à Saint-Étienne, Lyon. Après, il est allé en Arabie Saoudite une année. Il est revenu, il est parti au Racing de Strasbourg et il a fini au Red Star. Voilà son parcours.
Ah oui, c'est son parcours. Voilà. Mais enfin, la plus grande partie de sa carrière a été stéphanoise, quand même.
Ah bah oui. Ah bah oui. Il a dirigé 530 matchs en tant qu'entraîneur. C'est quand même pas mal. Hein.
Ouais.
C'est quand même pas mal.
Et puis, on a toujours en mémoire sa chevelure, sa rouquine, là, avec les cheveux très très longs, très frisés.
C'est ça.
Ça, c'était.
C'était un amoureux du jeu, pas des joueurs. Il aimait ses joueurs. Mais les noms des joueurs n'importaient peu. Ce qu'il aimait, c'était vraiment voir le football, voir un peu les matchs, les bonnes constructions de jeu, tout ça. Ça, c'était ça calme, ça. Voilà, c'était ce qu'il aimait.
Ben, il avait réussi à le reproduire, à faire reproduire par ses joueurs sur le terrain, parce que on va pas refaire l'épopée, mais on sait que on a vu des matchs exceptionnels, hein, où les joueurs étaient complètement cramés, mais bon, ils se battaient jusqu'à la fin, et puis ils arrivaient toujours à arracher le résultat, quoi.
C'est ça, avec des jeunes.
Et des jeunes joueurs qui avaient gagné la Gambardella, d'ailleurs.
C'est ça, qui avaient gagné la Gambardella en 70, c'est ça, tout à fait. Tout à fait, et qui l'a formé, qui l'a mis au plus haut niveau. Et puis après, la défaite en finale, le président Rocher a dit, lui, il voulait gagner à tout prix la Coupe d'Europe. Donc, il y a Battiston, Dimaco, et Roby était contre, c'est l'arrivée de ses joueurs. Il voulait reprendre avec une nouvelle mouture de jeunes et refaire une équipe. Mais bon.
C'est l'histoire, on sait, dans les clubs, c'est comme ça, mais enfin quand même, bon, j'étais à Glasgow, hein, mais ça a quand même été une belle aventure. Je crois que si on avait gagné, on y serait peut-être encore, parce que vu l'ambiance qu'il y avait, c'était exceptionnel. Là, c'est ce que tu dis, quand on arrivait à Amford Park, tu avais l'impression d'être à Geoffroy Guichard, tu connaissais tout le monde.
Ah ouais.
C'était dingue, ça, hein, c'était... Exact. Ouais, c'était...
Et le retour de Cap Park, avec la ville défilée aux Champs-Élysées.
Ils ont perdu la Coupe d'Europe et ils ont remonté Champs-Élysées devant des milliers de personnes. Ouais, c'était... Et ouais, ben ça, c'est vrai que Roby, il avait pu se battre contre les meilleures équipes européennes à l'époque, le Bayern, Eindhoven, enfin tout ça.
Kiev
aussi, quand on se rappelle le match aller qui avait été joué sur un terrain infect.
Et... À Saint-Séropol,
je me rappelle, je peux le dire, parce qu'on a fait de l'avion, là. Je peux dire que ça a déjà joué à Moscou, après à Kiev, ça pouvait pas se jouer, voilà. Mais finalement, et moi, tu vois, quand on était revenu dans l'avion, j'avais dit au gars qui était avec moi, mais, parce que le dernier quart d'heure avait été vert, quand même, hein, et moi, je me rappelle, de ce match, hein,
c'était sous la neige.
Ah, bah, ils avaient nettoyé, enfin, ils avaient séché le terrain avec des réacteurs d'avion, là, je me rappelle, derrière des tracteurs. C'était un cirque. Et le match retour, bien sûr, qui restera un match un peu de légende. Moi, j'aime pas bien les mots, mais c'est vrai que ça a été exceptionnel, ce match retour. Et après, ça les a amenés en finale.
Ça les a amenés en demi.
En demi, oui, puisqu'après, il y a eu Eindhoven. C'est le but de l'Arkay en fait qui les a qualifiés au retour puisqu'ils avaient fait 0-0 au match aller.
Non, mais bon. C'est l'inverse. Ils avaient gagné à Saint-Etienne 1-0.
Oui, c'est ce que je dis.
0-0
oui.
À Eindhoven.
Oui, ils avaient fait 0-0 à Eindhoven d'ailleurs. Ouais, voilà. J'avais inversé les matchs. Ouais. Oui, d'abord, ils avaient gagné à 0, puis après, ils avaient été faire match nul. Puis moi aussi, il y a un match qui m'avait marqué parce que il y avait les affrontements à l'époque Saint-Etienne-Nantes. Quoi. C'était toujours des beaux matchs, hein, par contre. Mais...
Ah oui.
Et en Coupe de France. Saint-Etienne avait été joué à Nantes, c'était déjà aller-retour là. Ils avaient perdu 3-0, donc dans l'avion, les joueurs disaient mais c'est pas possible, on va pas se faire éliminer par Nantes. Et au match retour, je me rappelle quand ils avaient gagné 5-1. Et c'est ce que j'avais dit à Hervé Revelli, que j'avais retrouvé une fois quand il entraînait Carouge en Suisse. Et j'avais dit Hervé, écoute, je pense que t'es un peu un gars plutôt réservé, hein, Hervé. Même quand il marquait des buts, il était content. Mais
pas évident.
Ouais. Mais ce cinquième but qu'il avait mis contre Nantes, je lui dis, mais t'as grimpé après les grillages. Alors, il me dit, oui, mais là, on était fous, on savait plus ce qu'on faisait. Et ouais, c'est des souvenirs, quoi. Et ouais, c'est vrai que Robert Herbin, bon. On n'oubliera jamais, hein, c'est des joueurs qui ont amené, lui il a beaucoup amené au football français à Saint-Etienne, hein, parce que vraiment à partir de 70 là, jusqu'à 82 on peut dire, hein, ils ont quand même dominé le football français, hein, à peu près, hein, c'est ça.
En 83, il est parti en 83.
Il est parti en 83, ouais, c'est ça. Ouais.
C'est ça.
Eh ouais,
donc,
ouais, bah alors ça va, on va pas en parler parce que quand on voit ce qui se passe maintenant, c'était un peu de la rigolade, quoi. Ça fait. Les gens qui ont connu cette époque, là, ça fait rire tout le monde maintenant. Et dire que le père Rocher, il a fait un peu de prison pour ça, même eux. Maintenant, il y en a d'autres qui devraient y être. Hein. Bon, on va pas continuer pas là-dessus. Voilà, donc Robert, alors c'est vrai qu'il y a quelques temps déjà qu'il était fatigué. Hein. Il y a quelques années, là, il avait ce problème cardiaque. Donc, et là, ça l'a emmené, quoi. Voilà, c'était.
C'est ça. Mais il a pas souffert, donc déjà c'est déjà.
Ouais, c'est déjà pas mal. Bon, il a eu la vie peut-être qu'il voulait, lui, hein, qu'il aimait.
Oui, tout à fait. Ouais. Il était heureux comme ça. Hein. Il ne souhaitait pas, un environnement d'anciens joueurs et tout ça qui serait sans cesse avec lui. Non, il préférait rester dans son domaine.
Il avait une fille, je crois. Hein.
Oui, Patricia.
Ouais. Qui voyait.
Qui était journaliste, hein, si ma mémoire est bonne.
Oui. Ouais.
C'est journaliste, qui est dans le culturel, ou dans les événements culturels.
Ouais. Voilà. Et puis bon, c'est vrai qu'on dit qu'il aimait la musique, mais son père était musicien d'opéra aussi. Donc...
Papou, comme on l'appelait. son père, Papou, c'était un trombonettiste.
Ah oui, c'est ça, voilà.
Ouais, un trombone, mais premier trombone, hein, il était prof aussi en même temps au conservatoire.
Voilà, on comprend peut-être un peu plus qu'il s'intéressait à la musique classique.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il avait baigné dedans quand il était jeune.
Oui, ça doit jouer.
Ça doit bien un petit peu jouer. Voilà, Roby, alors bien sûr, je dirais qu'on ne choisit pas sa mort, mais il ne meurt pas au bon moment, quoi, parce qu'avec cette histoire de confinement, je pense qu'il aurait mérité quand même beaucoup de monde, et je pense qu'il y aurait beaucoup de monde, parce que c'est quand même quelqu'un qui était apprécié.
Oui, alors je sais pas s'il aurait souhaité.
Non, il aurait peut-être pas souhaité, lui, mais enfin bon. Voilà. Lui, ça l'aurait pas gêné qu'il y ait personne. Mais bon, que je veux dire, c'est qu'il aurait mérité quand même. Enfin, il aura bien sûr un hommage.
Je pense qu'il y aura quand même quelque chose de fait au niveau.
Les médias, je pense qu'ils vont.
Je crois que, il me semble, sans avoir entendu. Je sais pas si j'avais Pierre Rappelli tout à l'heure au téléphone, là.
Ouais.
Il me semble que Bernard Caillazo veut faire quelque chose.
C'est un petit peu logique, hein, parce que. Il a quand même.
Quand, enfin, j'en sais rien. Parce que...
Oui, mais là, on va attendre. Ouais, enfin, de toute façon, maintenant, ça presse pas bien, hein, parce que je vais te dire.
Non, ça presse pas.
Non, il a marqué le club, c'est vrai qu'il a marqué le club, puis je pense que quand on voit toujours. Les chaînes qui repassent l'épopée 76, donc ça fait bientôt, ça fait 45 ans, hein, je veux dire. Donc c'est pas oublié quand même.
44 ans.
Ouais, 44 ans, c'est pas oublié, hein, c'est Ils ont marqué quand même, même si le football a changé. Je pense qu'on avait du plaisir à regarder ce football parce qu'il y avait quand même quelques artistes dans cette équipe.
Même les générations postérieures qui n'ont pas connu, qui n'ont pas vu ces matchs-là, quand ils voient les matchs, ils sont passionnés quand même. Hein. Ils regardent et ils connaissent, alors qu'ils n'ont jamais vu de leur vivant un match des Verts.
C'est vrai qu'il y a cet engouement. Puis partout, quand on allait à l'étranger, vous êtes d'où de la Loire, Saint-Étienne. Ouais, Saint-Étienne, les Verts. C'était incroyable,
42.
C'était incroyable. Ben, je crois qu'il y est pour beaucoup dans la notoriété de cette équipe de. De Saint-Étienne, voilà. Donc là, tu perds un ami, toi, c'est sûr.
Ah, tu perds un ami très cher.
Ouais, puis un ami de longue date, c'est ça encore en plus. Hein,
donc, de longue date, et puis bon, c'est difficile. Moi, j'ai du mal à me faire
à l'idée, ouais. Et quand tu le rencontrais sur la fin, là, il te parlait qu'il n'était pas bien ou.
Ah, il était fatigué. Ouais. Les dernières fois, il me disait, je lui disais, bon, c'est pas grave, ça va venir, mais bon, au téléphone, je voyais bien que, quand je le rappelais, je voyais bien que c'était pas la grande forme, hein. C'était pas la grande forme. Quand on n'arrivait plus de discussion, on n'approchait plus les matchs de la même façon, je voyais que ça le fatiguait d'en parler, voilà, ça le fatiguait un peu.
Voilà, bon, on pourrait encore passer beaucoup de temps.
Je pourrais en parler des heures.
Ouais, non, mais c'est sûr, quand on a côtoyé comme ça Roby. Ah, ouais. Mais en fait, Jackie, en quelques mots, toi, qu'est-ce que tu vas retenir de ton amitié avec Robert Rabin? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou il t'a le plus impressionné?
Moi, là où il m'a le plus impressionné, disons, c'est dans l'analyse des matchs, même maintenant, hein, même récemment. Hein. À la fin, tu te dis, comme disait l'inspecteur Boyle, bon sang, mais c'est bien sûr. Il savait analyser un match, savoir un peu comment il aurait fallu jouer par rapport à ce qui a été fait. Et c'est ce qui m'a le plus marqué, parce que là, c'est de la folie. Hein. C'est de la folie. En peu de mots, il n'avait pas besoin de regarder le match 10 fois. Hein. Il était attentif. Les matchs qu'on voyait ensemble, parce qu'on en a vu beaucoup ensemble, beaucoup ensemble dans les tribunes. On en a eu pas mal, et chaque fois, il avait une analyse très, très, très pointue, très pertinente hein, du jeu. Hein. Avant les autres, il pouvait faire une analyse dans les 10 minutes après la fin du match. Toi, il pouvait falloir une heure ou une heure et demie de revoir les séquences pour pouvoir faire une analyse. Il pouvait la faire en 10 minutes. Voilà, ça, c'est le grand talent, quoi. C'est le grand talent.
Voilà, eh bien, Roby nous quitte. Il venait juste d'avoir ses 81 ans en plus, parce que j'ai vu qu'il était du 30 mars.
30 mars.
Ouais. Alors, il avait quelque chose de particulier aussi avant de terminer. C'est qu'alors, autant les joueurs, des souvenirs, des maillots, des trophées, lui, apparemment, il avait la réplique de la Coupe d'Europe.
Plus rien,
il n'avait plus rien, oui.
Il avait encore un trophée, je vais vous montrer, qu'on lui avait donné pour les 10 titres, trophée de la Ligue, qui lui avait donné un trophée pour les 10 titres de champion. Voilà. Donc il avait ça, puis il avait gardé aussi, c'est marrant, il avait gardé une grande page de l'équipe, qui était quand il était junior. Il a été junior et le titre c'était La France a découvert un super grand truc comme ça, toute la première page. Donc il avait gardé ça, sous, mais plus rien, plus un maillot, plus rien.
Quand on pense à la carrière qu'il a fait et tout ce qu'il a eu, ça paraît être.
Ouais, mais bon, ça l'intéresse pas.
C'était lui, oui, ça l'intéressait pas. Voilà.
Il n'y a que le jeu
qui l'intéressait. Ouais.
Voilà, c'est ça. Mais là, quand je pense, tu fais penser le 30 mars. Il est mort le 30 mars, il est mort à 81 ans.
Oui.
Et Garonner est mort à 81 ans aussi.
Ah oui, tous les deux. D'accord.
C'est curieux. Hein.
Ouais, c'est bizarre.
C'est curieux. Voilà.
C'est comme ça la vie.
On fera mentir le proverbe, quoi.
Ouais. Bon, écoute, Jackie, merci d'être avec nous puis de nous avoir rappelé un petit peu cette vie de Roby, qui va faire parler encore un peu de lui là pendant quelques temps, parce que c'est vrai que le monde du football va être triste, hein, ceux de notre génération, mais même les autres, parce que même les plus jeunes connaissent les Verts au travers de leurs parents, de leurs grands-parents, hein, parce que tous les Stéphanois ont parlé un jour ou l'autre dans une réunion de famille des Verts, ce qu'ils ont vu à l'époque. Donc voilà, c'était grâce à Robert Herbin, oui. Dit Roby, dit le Sphinx. Et bien là, il va, ça va être très calme. Hein, donc, ça ne changera pas beaucoup, je pense.
Tout à fait.
Merci d'arrêter.
Merci Jean-Pierre.
Salut Jackie,
merci
c'est moi Jean-Pierre qui te remercie.
De m'avoir permis de d'évoquer un petit peu Robbie, hein, ça me fait plaisir.
Ah bah ouais, mais t'étais vraiment.
Ça libère un peu.
Ouais, c'était vrai, t'étais vraiment la personne adéquate, hein, ça je le savais, t'étais très près de Robbie. Je dis, bon, bah, moi ça me fait plaisir de t'avoir écouté, puis surtout je sais que ça te fait plaisir de parler d'un gars voilà. que t'aimais beaucoup, d'une tout personne que t'aimais
tout
beaucoup.
Tout à fait.
Merci Jackie, beaucoup. À bientôt. Salut.
À bientôt, au revoir.
Voilà ce bel hommage rendu par Jackie Roche, son ami de toujours, Robert Herbin. Et nous, on a une pensée, bien sûr, pour lui, hein, Robbie, pour moi aussi, c'est quelque chose. Bon, moi, je l'ai moins côtoyé que Jackie, bien sûr. Mais je me rappelle surtout des matchs. Et comme disait Jackie, c'est vrai qu'il pensait, il dormait, il rêvait football. Et il nous l'a prouvé sur le terrain avec les équipes qu'il a fait jouer de manière somptueuse. Eh bien, on va se passer un petit air d'opéra, puisque lui, il adorait ça, l'opéra. On écoute un petit air d'opéra.
Jamais con lui.
eh bien, un petit hommage, une autre façon à Robert Herbin, qui était un fanat d'opéra. Voilà, on lui a rendu un petit hommage, donc, et on va le retrouver là. Robert Herbin dans une interview qu'il avait donnée lorsqu'il a pris les vers de Saint-Étienne. Donc on écoute Robert Herbin.
1972, et maintenant entraîneur de l'AS Saint-Étienne. En vous voyant descendre du car, on vous a pas vu avec le sac de sport habituel, avec la petite sacoche, la tachicaisse de l'entraîneur. Alors Roby, c'est pas trop difficile pour vous de rester sur la touche?
J'en ai fait l'expérience au cours des deux premiers matchs, pas de championnat, mais de la Coupe d'été, et j'avoue que c'est un peu difficile. Enfin, j'ai conservé quand même beaucoup d'activité à l'entraînement, je fais travailler les gars et ça me permet de me maintenir en condition, mais de toute façon, en ce qui concerne la compétition professionnelle, j'ai tracé un trait. Il est difficile de concilier les deux. J'en ai fait l'expérience l'année dernière en fin de saison et je me suis aperçu que c'était pratiquement impossible. On est obligé de penser à un tas de problèmes et la préparation individuelle à ce moment-là est pratiquement impossible. Je crois qu'il faut amener les joueurs à être conscients de leurs responsabilités, à accepter une discipline librement consentie. Je ne suis pas pour des mesures très strictes ou des consignes très strictes. Bien sûr, à chaque poste, on a un rôle bien défini, mais à partir de là, le joueur doit s'exprimer totalement.
Est-ce que vous redécouvrez quelque chose?
Je redécouvre tout. Je redécouvre tout parce que je ne savais pas que le football, en tant qu'entraîneur, était aussi différent que le football que l'on pratique quand on est joueur. Enfin, je veux dire que la situation est totalement différente et ça m'échappait totalement quand j'étais joueur. Et j'avoue que maintenant, tous ces problèmes sont beaucoup plus importants parce qu'il faut penser à 18 joueurs et non pas à soi-même.
Voilà donc Robert Herbin qui venait de prendre le poste d'entraîneur à Saint-Étienne. Et oui, de joueur, il passait à entraîneur.
Qui m'habite, c'est mon problème. Être vrai, et c'est peut-être parce que l'on est trop vrai que les autres vous trouvent compliqué.
Pierre Garonner connaît Herbin depuis toujours. Écoutons-le pour mieux comprendre.
Roby, je pense que c'est un grand sentimental qui a souvent peur d'afficher ses sentiments.
Sentimental, oui, afficher ses sentiments. Je crois qu'il y a une certaine pudeur et puis les sentiments, je crois que la meilleure façon de les afficher sont ceux qui créent quelque chose. Je crois que j'ai affirmé mes sentiments tant que j'étais joueur. Je crois qu'à travers mon jeu, on pouvait déceler ma personnalité, le souci de la perfection, la générosité dans ce que représente le football, la création. Je crois qu'on peut l'exprimer dans la musique, les compositeurs l'expriment totalement. On peut l'exprimer dans l'écriture. C'est peut-être quelque chose qui m'aurait été difficile de réaliser parce que j'ai peut-être une pudeur un peu plus grande, mais je pense que dans la peinture ou dans la musique, on peut donner le meilleur de soi-même, montrer sa vraie personnalité sans aucune pudeur.
Si sa passion du football est restée intacte, la vraie jouissance, en revanche, l'a quittée depuis longtemps. Depuis qu'il regarde au lieu de participer, comme s'il avait vécu une première mort.
J'avoue que j'ai éprouvé les plus grandes sensations lorsque j'étais joueur. Et c'est là où je regrette maintenant que j'ai passé le demi-siècle. C'est là que je regrette, ça aurait été un vœu, d'avoir choisi le football avec une carrière qui est courte, alors que avec mon caractère, avec mon tempérament, si j'avais su ou pu ou voulu choisir autre chose, quelque chose comme la peinture ou comme la musique, là on peut rester dans son élément jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je me sens frustré.
Jamais pourtant il ne se laissera aller. Herbin, c'est aussi le respect de la discipline entre le corps et l'esprit. Herbin, c'est une conception esthétique de l'existence.
Je crois que le dépassement de soi-même doit exister dans tout être humain. On doit chercher à se dépasser. Je pense que la vraie médiocrité, ce n'est pas d'être moins intelligent que les autres, ce n'est pas d'être moins doué que les autres, c'est de ne pas chercher à se tester. Je suis gêné pour ceux qui se négligent, hein, que ce soit intellectuellement ou physiquement. Je crois que les gens qui se négligent, là aussi, c'est un petit peu retrouver cette médiocrité que je n'admets pas.
Vient l'instant d'après-match le plus redouté des journalistes quand Herbin répond à des questions mille fois posées, le regard distant, l'air absent. Tant et plus qu'on se demande ce qui pourrait bien le faire rire.
Tout me fait sourire. Mais...
Sourire?
Oui, sourire. Rire aux éclats, c'est très rare. C'est très rare, il faut un contexte, il faut vraiment une ambiance particulière, mais j'apprécie l'humour, j'essaie d'en avoir de temps à autre. C'est vrai que je n'éclate pas de rire très facilement.
Il reste que son univers, son refuge, c'est d'abord la musique. La musique, quand elle est poussée dans ses extrêmes, qui lui permettait, lorsqu'il était joueur, de pouvoir mieux se concentrer. Il déplore que la plupart des champions d'aujourd'hui soient imbibés d'un rythme moderne, intoxiqués par le disco.
Personnellement, la vraie musique, pour moi, c'est la musique classique, celle qui vous élève. L'autre musique est une musique qui stimule, qui donne envie de bouger, mais qui ne s'adresse peut-être pas réellement à l'âme, qui ne transcende pas. J'en ai parlé à la personne qui s'occupe de la sono à Saint-Étienne, et peut-être que pour conditionner le public, il y a des thèmes de Mahler qui sublimeraient peut-être le public, je ne sais pas, et naturellement les joueurs aussi.
Et puis il y a Brel. Brel et sa force et ses mots. Brel qui l'accompagne partout dans ses rêveries et sa nostalgie.
Brel, je l'associerais aux poètes romantiques comme Baudelaire et d'autres. C'est vrai que Brel est unique et qu'il restera gravé. Je suis persuadé que dans quelques années ou une décennie, tous ces textes seront étudiés au lycée.
On est deux à vieillir contre le temps qui cogne, mais lorsqu'on voit venir en riant la charogne, on se retrouve.
On va écouter une réaction aussi de Laurent Paganelli, bien sûr, plus jeune professionnel de France et qui souhaite rendre à sa façon aussi un hommage à Robert Herbin.
À Robert Herbin, parce que voilà, c'était quand même un homme qui a vraiment compté pour moi, un homme exceptionnel. De ma première rencontre, contrairement à ce que l'on a pu penser, c'est quelqu'un qui m'a souri. Là, il a rigolé, j'avais un pantalon dessiné avec une bande dessinée, lui il avait un pantalon à franges. Voilà, et j'ai aimé cet homme parce qu'il m'a apporté énormément. Voilà. Il m'a apporté énormément dans mon caractère, dans ma vie. Et c'est quelqu'un, même s'il avait une image du sphinx, c'est qu'il avait un feu intérieur extraordinaire, qui aimait la vie. C'était une vie, c'était un homme, c'était des idées. Voilà, c'était un caractère, c'était un gagneur, c'était un battant, c'était quelqu'un qui allait au bout de soi-même, qui nous le faisait comprendre, qui ne parlait pas toujours, mais ses silences voulaient dire autant que ses paroles. Voilà, je peux dire qu'il m'a permis de grandir. Derrière mon côté décontracté, voilà, j'ai intérieurement... un guide en moi et c'est Robert Herbin. Voilà, j'ai pas mal d'anecdotes avec lui. Un jour, je m'étais endormi à l'entraînement et il m'avait laissé dormir. Il m'a dit, puisque tu dors à l'entraînement, j'espère que tu seras réveillé pendant les matchs. Voilà, ça c'était Roby, c'était quelqu'un d'entier, d'excessif, de solitaire souvent, mais qui avait un cœur d'or, qui avait un cœur vert, qui a su toute sa vie défendre les valeurs du football, de la rue, comme on aime, les vraies valeurs du foot, voilà, celles qui nous font grandir et avancer. Il a su élever le football français à un niveau tel qu'on a pu rivaliser avec les plus grandes nations. Voilà, Roby, c'était ça. Alors, je voulais lui rendre cet hommage parce que, au fond de moi, il ne va pas me manquer, parce que je crois que dès ce soir, dans le ciel, il y aura une étoile verte, un peu isolée des autres, qui sera là, et on pourra le contempler, parce que pour toute une génération, il a compté énormément. Voilà, le peuple vert, le peuple français, c'était important, cette couleur verte. Et pour moi, personnellement, je vais mettre un VHS ce soir de Saint-Étienne et Dynamo de Kiev. Voilà, avec un petit whisky, un gros cigare. Je vais regarder ce match. Voilà, je suis un peu ému de regarder ce match dans mon coin, tout seul. Et je vais penser profondément à lui. Voilà, Roby, je t'aime, je t'adore. Et tu me manqueras jamais, parce que tu seras toujours là.
Voilà un bel hommage de Laurent Paganelli. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure avec Jackie, ouais, il fallait bien le connaître, Roby. Il avait une personnalité que les joueurs l'ont bien connu. Hein, donc voilà un hommage de Laurent Paganelli, bien sûr, qu'il va en avoir beaucoup d'autres. Nous, on en donna un autre mesure avec peut-être Jackie qu'on a entendu, qui est sûrement son ami de plus longue date et surtout le plus proche. Un vrai ami, hein, parce que le mot ami parfois est galvaudé, mais là c'était vraiment deux amis, et notamment avec Jean-Michel Larquet.
Problème cardiaque et pulmonaire, Robert Herbin restera un symbole de l'épopée européenne des Verts en 1976, Benoît Ballet.
Robert Herbin, Roby pour ses joueurs, ses 9 titres de champion de France avec Saint-Etienne, dont 4 comme entraîneur, 6 trophées de Coupe de France, dont la moitié sur le banc, 14 saisons comme tacticien et un surnom bien acquis, le Sphinx. Jean-Michel Larquet a joué avec le maillot vert sous ses ordres, il raconte.
Si tu voulais connaître le résultat du match, il fallait surtout pas t'appuyer sur le faciès de Roby, quoi. Il avait toujours le même visage.
Mais Robert Herbin, ce n'est pas que des succès. En 1976, Saint-Etienne atteint les sommets du football, une finale de Coupe d'Europe des clubs champions. La France chante pour l'encourager. Allez, qui sait le plus fort, évidemment, c'est les Verts. Les Verts échouent 1-0 face au Bayern Munich dans un match d'anthologie. La faute au poteau carré. Dominique Battenet, auteur d'un tir qui échouera sur la transversale pendant ce match, salue la mémoire de son entraîneur.
Il savait un petit peu essayer de motiver ses joueurs sans parler trop. Il était plutôt dans le travail, dans tout ce qu'on faisait à l'entraînement.
Cette nuit, l'AS Saint-Etienne lui a rendu hommage sur Twitter. Monsieur Herbin était un mythe. On va gagner, ça
c'est juré. Voilà, les hommages se succèdent, hein, bien sûr, pour parler de Robert Herbin, qui aura marqué le football stéphanois et le peuple vert. On va écouter encore un hommage. Merci, Tienne. Robert Herbin.
Il avait été admis il y a quelques jours en soins intensifs pour des problèmes de santé. Et il nous a quittés donc hier soir. Et aujourd'hui, puisque j'enregistre cette vidéo mardi, évidemment, le monde du football rend hommage à Robert Herbin, l'entraîneur mythique de la Saint-Etienne, mais pas que l'entraîneur, d'ailleurs, j'y reviendrai dans quelques instants. Ça a été aussi un grand joueur, on l'oublie un petit peu, mais ça a été un très grand joueur. Et la Saint-Etienne lui doit tout simplement tous ses titres, ou quasiment tous ses titres de champion de France. C'est-à-dire que l'étoile qui brille sur le maillot de la SS, que l'on voit derrière sur le maillot et qu'on voit partout, cette étoile-là, eh ben, on la doit évidemment à Robert Herbin, qui a été un grand joueur. Alors, évidemment, moi, je ne m'en souviens pas, parce que Robert Herbin est né en 1939, le 30 mars 1939 à Paris. Il a passé son enfance du côté de Nice, et il a rejoint la Saint-Etienne très jeune, en fait, dès 1957, juste après le premier titre de champion de France. Et après, il a participé aux fameux 4 titres qu'on avait eu de 67 à 70. C'était un milieu de terrain très athlétique, visiblement, grosse frappe de balle aussi, et qui a 23 sélections en équipe de France, hein, c'est pas rien, qui a été un capitaine stéphanois emblématique. Il a connu en tant que joueur, évidemment, les grands noms qui ont fait le club de la Saint-Etienne. On peut citer Keita, Beretta, Bosquier, Mekoufi, etc. Donc c'est vraiment, il fait partie de la légende du club en tant que joueur. Et en 1972, il succède à Albert Batteux en tant qu'entraîneur de l'AS Saint-Étienne à la demande du président de l'époque, Roger Rocher. Et donc il devient entraîneur de l'AS Saint-Étienne. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que il a joué un dernier match, enfin il est rentré en cours de match en 1975, alors que les Verts avaient déjà garanti leur titre de champion de France. Il est rentré en cours de match face à Troyes, c'était le 3 juin 1975. Les Verts mènent 4-1, il y a un pénalty, et là c'est Robert Herbin qui va le tirer, en fait entraîneur-joueur, et qui va marquer donc le 5e but de l'AS Saint-Etienne. Voilà, ce sera son dernier but. Il a 509 matchs sous les couleurs stéphanoises, vous vous rendez compte, 509 matchs, c'est quand même exceptionnel. Et se termine ainsi sa carrière de joueur, mais il était déjà entraîneur de la SS. Et donc, en tant qu'entraîneur de la SS, ben voilà, il a construit l'épopée verte avec évidemment tous les grands noms de l'époque, Jean-Vion, Lopez, Battenay, etc. Enfin, vraiment, toute l'histoire mythique du club de la S Saint-Etienne s'est construite autour de Robert Herbin, d'abord comme joueur, puis après en tant qu'entraîneur. Il faisait beaucoup confiance aux jeunes. Robert Herbin est quelqu'un qui ne communiquait pas beaucoup, hein, qui avait eu la volonté, c'est lui qui le disait d'ailleurs, hein, dans les rares interviews qu'il avait accordées par la suite, dans sa biographie, il expliquait qu'il voulait protéger les joueurs, donc c'était pas quelqu'un de très expansif, un peu secret, comme le sphinx. Et donc il a arrêté sa carrière d'entraîneur à Saint-Étienne au moment de la fameuse caisse noire, et puis après il a poursuivi son parcours d'entraîneur qui a été un peu plus chaotique par la suite. Mais ce qu'on retiendra évidemment de Robert Herbin, c'est tout ce qu'il a apporté à notre club. Voilà, c'est que on lui doit le côté mythique de l'AS Saint-Étienne. Voilà, c'est très clair que, encore une fois, que ce soit en tant que joueur ou en tant que qu'entraîneur, il a vraiment construit le palmarès du club, les Coupes de France, les titres de champion de France. Et si l'AS Saint-Étienne reste l'AS Saint-Étienne, à la fois de par son palmarès, mais aussi dans l'esprit des Français, un club hyper populaire, c'est en partie ou en grande partie grâce à Robert Herbin. Voilà, moi je dois dire que évidemment je garde qu'un léger souvenir de cette période là moi, le dernier titre de champion de France, j'avais pas tout à fait 10 ans, je m'en souviens un petit peu mais pas beaucoup. Mais forcément, du coup, en tant que supporter des Verts depuis toujours, je n'en suis que plus reconnaissant à Robert Herbin d'avoir fait ce club tel qu'il est, et en quelque sorte d'avoir laissé cet héritage aux générations futures qui portent fièrement finalement le palmarès de l'AS Saint-Étienne, voilà, qui fait notre fierté collective, bien sûr, et qui restera pour toujours. En fait, le nom de Robert Herbin restera à jamais accolé à celui de l'AS Saint-Étienne, et l'inverse est vrai, le nom de l'AS Saint-Étienne restera accolé à jamais au nom de Robert Herbin. Et du coup je m'interroge sur ce que nous pourrions faire. Alors cette disparition arrive dans un moment compliqué de confinement, plus de matchs, plus de personnes dans les stades, et donc du coup difficile de lui rendre le véritable hommage qu'il mériterait. Mais je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. On ne peut pas évidemment débaptiser le stade Geoffroy Guichard, c'est pas possible. Une tribune, c'est compliqué aussi, mais il faudrait trouver quelque chose pour lui rendre l'hommage qu'il mérite. Je ne sais pas si vous avez des idées. Dites-le moi en commentaire. Voilà, je sais pas ce qu'on pourrait faire, je sais pas ce que le club pourrait faire, mais ce qui est sûr, c'est que il faudra faire quelque chose pour lui rendre l'hommage collectif qu'il mérite. Il faut absolument que nous puissions, nous supporters, tout simplement lui rendre cet hommage là lui dire que on n'oubliera jamais ce qu'il a donné pour le club et ce qu'il a fait pour le club, et tout ce que nous lui devons. Et encore une fois, maintenant, quoi qu'il arrive, évidemment, ça restera à jamais dans l'histoire du club. Donc merci à Robert Herbin. Voilà, sa disparition nous fait beaucoup de peine, et du coup voilà, je voulais juste lui rendre ce petit hommage en vidéo, tout simple, sans aucune prétention, lui dire simplement que voilà, on pense évidemment à sa famille aujourd'hui, et à tous ses amis, ils sont nombreux dans le monde du football, qui évidemment sont en grande peine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Voilà, donc un hommage de plus pour Robert Herbin. Voilà, on va terminer cette émission avec une chanson de Jacques Brel. Robert Herbin adorait Jacques Brel. Alors j'ai choisi Amsterdam. Pourquoi Amsterdam? Parce que Eindhoven a été chaque fois des grands rendez-vous pour les Verts, puisqu'ils ont toujours éliminé l'équipe d'Eindhoven. Et un fameux 6-2, et il y a eu une année Donc Jacques Brel, Amsterdam. Salut Robert.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Voilà, Jacques Brel, qu'adorait Robert Herbin. Ben, cette émission se termine. Cet invité du jeudi était un hommage à Robert Herbin avec Jacky Roche, son ami le plus proche. Alors, vous avez entendu quelques autres réactions. Il y en aura plein, hein. Mais bon, voilà, nous, on voulait à notre manière. Et puis moi, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, hein, aussi, un peu moins que Jacky, bien sûr. Mais quand il avait confiance, que disait Jacky tout à l'heure, eh ben, c'est quelqu'un qui se livrait un petit peu. Mais c'était un homme très attachant. Et on n'oubliera pas sa grande... ses cheveux roux, hein, qui étaient ces grands frisés, hein, ça avait redonné, on a l'impression que c'était une perruque. Voilà, cette émission L'invité du jeudi est terminée. Salut Roby. Cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Invité du jeudi, hommage à Robert Herbin.